VOA Afrique. Ici, la voix de l'Amérique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro du Washington Forum. Plein feu cette semaine sur les défis qui restent à relever pour électrifier l'Afrique.
Près de 600 millions d'habitants d'Afrique subsaharienne sont privés de courant. Les observateurs sont catégoriques, c'est un frein au développement. Les projets tels que Power Africa du président américain aideront-ils à surmonter ce gros obstacle ? Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. À venir, une série de reportages entrecoupés de commentaires et d'analyses. Pour l'heure, le tableau est sombre et plusieurs organisations estiment que si rien n'est fait, ce sont chaque année 10 millions de nouvelles personnes qui seront sans électricité sur le continent africain. Un calvaire dans la vie de tous les jours. Pour le démontrer, cap d'emblée sur le Kenya, où comme beaucoup d'autres pays africains, délestage et coupure de courant font partie du lot quotidien. Riche ou pauvre, personne n'est épargné. Les commerces non plus. À Nairobi, un reportage de Gabe Joslo que nous présente Michel Joseph.
Une petite entreprise de Nairobi avait débuté par la location des costumes de fête et s'est maintenant développée dans le secteur des services aux restaurants et aux supermarchés. L'entreprise fournit plus d'une tonne de crème glacée par jour. C'est une histoire à succès, mais pour Betty Mbite, qui gère cette petite compagnie, le manque d'électricité met en péril ses activités.
À un moment de l'année dernière, nous étions restés 3 jours sans électricité et nous ne pouvions rien faire du tout. Nos machines ont besoin d'électricité pour marcher. La chambre froide a besoin d'électricité. Aucun travail ne peut être fait sans l'électricité.
Pour retenir ses clients, The Iceman nécessite du courant 24 heures sur 24, car sans courant, il n'y a pas de glace. Toutefois, compter sur le réseau électrique kényan s'avère coûteux.
C'est un business qui coûte de l'argent parce qu'il consomme beaucoup d'électricité. Et tous nos profits vont à l'électricité, au gouvernement en quelque sorte.
L'électricité est donc l'une des premières dépenses de cette compagnie. Le problème n'est pas spécifique au Kenya. On le rencontre dans presque tous les pays africains. L'électricité est souvent inaccessible, trop chère et trop souvent indisponible. C'est dans ce contexte que des dirigeants du continent tentent de trouver des moyens pour renforcer cette accessibilité, notamment pour booster le climat des affaires. Les défis sont énormes. Quelques 600 millions d'Africains n'y ont pas accès, soit 60% de la population. L'Afrique consomme moins d'énergie électrique que toute autre région dans le monde, mais paie à peu près le même tarif que les États-Unis et le double de celui en vigueur en Asie de l'Est. Au Forum économique mondial de Davos 2015, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, a été catégorique. Les pénuries d'électricité sont en train de freiner les pays africains, selon Donald Kaberuka.
En ce moment, chaque pays africain connaît des pénuries d'énergie et des coupures de courant. Cela coûte au continent 2% de son produit intérieur brut. En fait, un leader africain a dit que nous sommes un continent qui connaît des miracles. Si nous avons une croissance de l'ordre de 5% sans assez de courant, imaginez ce que cette croissance serait si nous avions suffisamment d'électricité.
Selon lui, les pénuries sont dues en grande partie au manque d'infrastructures. Même des pays riches comme l'Afrique du Sud et le Nigeria en arrivent à rationner le courant. Bien que chaque État présente ses propres défis, le patron de la BAD est d'avis qu'accroître le commerce énergétique transfrontalier pourrait aider à créer un approvisionnement plus régulier et à faire baisser les prix.
C'est impossible pour nos 54 pays, pris individuellement, d'atteindre la sécurité énergétique à partir de leurs ressources domestiques. Nous devons créer un marché régional viable pour l'électricité. Et ça, c'est possible.
Les investisseurs sont en train d'injecter de l'argent dans des projets d'énergie renouvelable sur le continent, ce qui aide à combler quelque peu le fossé, mais beaucoup reste à faire, selon les spécialistes du secteur. La population devrait doubler en Afrique d'ici à 2050, ce qui aura un impact sur la demande. Et les experts sont formels, l'incapacité à améliorer la production et distribution de l'énergie électrique signifierait un énorme manque à gagner pour le continent.
Merci bien, Michel, pour nous accompagner tout au long de cette émission et pour éclairer nos lanternes. Sans jeu de mots, j'ai le plaisir d'accueillir Amadou Sy, directeur du projet de recherche Africa Growth Initiative à la Brookings Institution, l'un des plus anciens think tanks américains. Amadou qui nous rejoint en direct du studio, en fait, de chez lui via Skype. Merci d'être avec nous. En fait, je dois dire que Amadou chez lui parce que il ne pouvait pas nous se rendre en studio parce qu'il y a une tempête de neige qui s'abat sur Washington. Voilà, nous venons de voir comment les Kenyans, comme de nombreux autres Africains, sont affectés par ce problème d'électricité. En fait, d'après l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, si rien n'est fait, l'Afrique comptera toujours en 2030 environ 700 millions de personnes sans accès à l'électricité et 870 millions sans combustible et technologie de cuisson propre. La majorité de la population se trouvant donc privée du droit à une vie productive et saine. Amadou, si la panne d'électricité de l'Afrique est-elle aussi catastrophique ?
Oui, Jacques, je pense que le problème d'électricité, du manque d'électricité en Afrique est un obstacle majeur au développement non seulement de l'économie africaine, mais aussi au développement humain du continent. Vous savez, le stade des Dallas Cowboys ici au Texas consomme plus d'électricité pendant un match que le Liberia tout entier. Donc c'est vous dire qu'il y a un manque vraiment important d'électricité. Et c'est comme le système sanguin pour un corps humain. L'électricité touche toutes les activités. C'est le pêcheur qui ne peut pas stocker les fruits de sa pêche. C'est l'agriculteur qui ne peut pas faire la même chose. C'est l'étudiant qui ne peut pas étudier la nuit. C'est le docteur qui ne peut pas faire une radio à un malade ou un scanner à une femme enceinte. C'est vraiment un obstacle majeur au développement et au bien-être de nos populations, bien sûr.
Oui. Alors, Amadou, nous allons voir avec vous ce qui peut être fait pour relever ce défi énergétique. En tout cas, les initiatives se multiplient. Au Nigeria, par exemple, la moitié de la population, qui est d'environ 174 millions d'habitants au total, n'a pas accès au courant. Le pays a démarré en 2010 un programme de privatisation de son secteur électrique. Mais 5 ans après, toujours pas de lumière au bout du tunnel. Pourquoi ? Élément de réponse avec Nicolas Pinou.
La seule chose de sûre au Nigeria à propos de l'électricité, c'est qu'on n'est sûr de rien. Depuis Lagos, la mégalopole à Abuja, la capitale, en passant par les capitales des États de Yola ou d'Adamawa, la lumière est souvent absente. Les familles et les entreprises qui le peuvent utilisent des générateurs. Le reste des Nigérians font des feux pour s'éclairer et cuisiner. Idriss Iboubi paie sa facture mais ne reçoit que peu d'électricité par jour.
Vous payez et il n'y a pas de lumière. Au mieux, quand on a de la lumière, ils vous donnent 5 heures, 3 heures. Là où j'habite, ils allument l'électricité à minuit jusqu'à 6 heures ou 7 heures du matin. Et le reste de la journée, pas de courant. Si vous avez un business, vous devez avoir votre propre générateur.
Le Nigeria a commencé à privatiser son secteur énergétique en 2010, vendant des entreprises publiques à des investisseurs privés pour améliorer la production et la fourniture d'électricité. La compagnie de distribution électrique de Yola fournit ainsi 180 à 200 000 clients dans le nord-est du pays. Mais le porte-parole de cette compagnie, Aliyu Hassanardo, explique que son entreprise ne reçoit pas les 3,5% de capacité électrique qu'elle devrait recevoir et donc doit recourir au délestage.
Nous devons nous débrouiller avec le peu d'électricité que nous recevons. Nous manquons de mégawatts. Par exemple, nous n'avons jamais reçu les 3,5% de capacité électrique, même si cette capacité est de 3000 ou 4000 mégawatts.
Le Nigeria, plus grande économie africaine, ne parvient donc pas à satisfaire ses besoins électriques. Les générateurs résonnent partout. Adayat Hassan, directeur du Centre pour la démocratie et le développement à Abuja, explique que les centrales électriques défectueuses entravent le secteur énergétique qui est vital pour la création d'emplois.
Nous avons un déficit en infrastructure. Il y a une culture de la maintenance et non de la construction. Quand vous avez toutes ces vieilles centrales électriques construites il y a plusieurs décennies, ils ne les remplacent pas, ils les maintiennent. C'est assez évident.
La réalité est très simple au Nigeria. Pas d'électricité, pas d'argent.
Merci bien, Nicolas. Voilà, les coupures d'électricité, également évoquées d'ailleurs par les candidats en campagne pour les élections nigérianes du 28 mars. Amadou, il est beaucoup question d'investissement privé, comme le propose le plan Power Africa du président Obama. De tels investissements vont-ils vraiment être le game changer, comme on dit en anglais? Vont-ils changer la donne complètement?
En fait, le secteur de l'électricité est un secteur assez complexe. Hein. Mmh. Vous avez différents problèmes dans différents sous-secteurs. La génération, les efforts se concentrent sur générer plus d'électricité, mais il y a aussi le problème de la distribution, le problème de la transmission. Il y a aussi le problème du mix énergétique, quel type de combustible utiliser. Donc, il y a aussi le problème des entreprises publiques qui sont nécessaires. Donc, c'est un problème assez complexe. Mais les Nigérians sont quand même en train de faire une réforme de ce secteur. Et beaucoup des investisseurs privés auxquels nous parlons nous disent qu'il y a beaucoup d'espoir.
Oui, mais... Allez-y.
Oui, ceci dit, les montants, le problème des infrastructures, c'est que les montants sont assez importants et il faut aussi des financements à long terme. Donc, c'est vraiment un secteur où aussi bien le secteur privé que le secteur public doivent travailler ensemble. Deuxièmement, si on regarde Power Africa, il y a vraiment un effort d'attirer le secteur privé américain, mais aussi bien le secteur et aussi le secteur privé africain.
Alors, financement à long terme, oui, mais quel est l'intérêt économique des États-Unis ou de l'Europe d'ailleurs de soutenir ces investissements privés?
Alors, je vois au moins trois intérêts différents. Le premier, bien sûr, c'est de trouver des marchés aux compagnies américaines à travers l'investissement direct étranger dans ce secteur. Tout le monde est intéressé par l'énergie, les Chinois, les Européens, les Américains. Donc ça, c'est un. Il y a aussi quand même, ça fait partie aussi de cette tendance à voir comment utiliser l'aide publique au développement pour attirer plus de ressources. Vous savez, l'aide publique au développement qui va en Afrique a diminué et les investissements privés ont augmenté. Alors, beaucoup de secteurs de gouvernement essaient de trouver des moyens pour utiliser comme levier leur aide publique au développement et attirer leur secteur privé. Et troisièmement, il y a ce débat du mix énergétique qui s'insère dans ce grand débat du changement climatique. Utiliser les énergies renouvelables, et ça, c'est aussi quelque chose que les Américains essaient de pousser. Oui.
Nous allons y revenir. D'ailleurs, Amadou, je vous prie de rester avec nous. À venir, les commentaires à Facebook et d'autres reportages. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide, de retour avec vous. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Ça nous fait énormément plaisir. Nous parlons des défis à relever pour électrifier l'Afrique. Amadou Sy de la Brookings Institution est toujours avec nous. Mais pour l'heure, les commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique, je dois dire, il y en a eu une tonne. Donc, choix très difficile. Alors, nous allons commencer par Brian Kouadio, Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est incroyable et révoltant de savoir que l'Afrique a un potentiel énergétique. Et c'est cette même Afrique qui soit privée d'électricité. Areva donne de l'électricité à plus de 30% de la population française en exploitant l'uranium du Niger. Pourtant, le Niger est dans le noir. Francis Okito Chimbekoy de Kinshasa, la République démocratique du Congo, dispose d'un barrage capable d'alimenter une très grande partie de l'Afrique. Mais curieux, sa population n'a pas d'électricité. Marlin Dilamkoro, Djamena, Tchad. En Afrique, il faut être de la famille royale ou présidentielle pour avoir de l'électricité en permanence. Et Saturnin Amoussou de Bénin, actuellement à Cotonou, ont subi au moins 5 coupures par jour, à tel point qu'on ne rouspète même plus. Oui, les coupures, un thème récurrent dans nombre de pays africains. C'est difficile de l'imaginer, mais l'Afrique du Sud en fait partie. C'est la mauvaise gestion de la compagnie d'État Eskom qui est montrée du doigt, comme nous allons voir avec Camille Grosdidi.
Sheila Twala est âgée de 63 ans. Elle vit à Soweto, un township de Johannesburg, depuis 14 ans. Dépourvue d'une source de revenus, elle dépend entièrement de l'électricité subventionnée par le gouvernement, contrairement aux plus fortunés qui peuvent s'acheter des générateurs, des panneaux solaires, des fours et autres appareils pour leurs besoins en énergie. Comme Twala, des millions de Sud-Africains ne reçoivent plus depuis quelque temps un service constant de l'entreprise publique Eskom. Et elle ne cache pas sa frustration.
Nous étions très contents de voter pour des Noirs au gouvernement. Nous étions certains qu'avec des Noirs au pouvoir, nous n'aurions plus à souffrir comme au temps de l'apartheid. Mais c'est dommage. Maintenant, notre gouvernement noir nous fait souffrir.
Il faut dire que pour des gens comme Sheila Twala, le délestage peut durer plusieurs jours, voire toute une semaine. Et personne ne sait quand cette situation va changer. Eskom, un monopole d'État, avoue qu'un manque d'investissement, un entretien inadéquat, les bas tarifs, une dette énorme et le retard dans la construction de nouvelles centrales électriques vont obliger la société à poursuivre pendant plusieurs années sa politique de délestage programmée afin d'empêcher l'effondrement du réseau dans son ensemble. Un tableau plutôt sombre pour les millions de Sud-Africains, la majorité de la population, qui ne gagne pas plus $1,25 par jour. Utiliser du bois pour la cuisson est une option peu réjouissante, explique Twala.
C'est une torture extrême. La fumée emplit mes yeux. Le feu est trop chaud, mais je dois quand même faire à manger. De plus, nous allons en brousse pour recueillir le bois. Je ne peux même pas exprimer la souffrance que je traverse en hiver.
Les élèves aussi se plaignent des délestages. Ce jeune de Soweto, Phineas Ngomane, a 20 ans. Il dit que c'est dangereux d'utiliser des bougies pour étudier. Souvent, le travail est mal fait et les étudiants perdent des points. À travers toute l'Afrique du Sud, la plainte est la même. Eskom doit rétablir la livraison régulière du courant électrique. Mais dans les circonstances actuelles, rien n'est moins sûr.
Merci bien Camille. Et voilà, l'Afrique du Sud, pas épargnée non plus. Et là, la faute est imputée à la compagnie d'État Eskom. Amadou, tout à l'heure, nous avons parlé de privatisation au Nigeria. Deux cas de figure, mais deux cas d'échec. Cela veut-il dire qu'électrifier l'Afrique uniquement avec des financements privés ou des emprunts publics ne représente pas la solution? Au bout du compte, faut-il un plan Marshall pour électrifier le continent africain, comme le propose l'ancien ministre français de l'écologie, Jean-Louis Borloo?
Mais vous savez, Jacques, les Africains n'ont pas attendu M. Borloo pour cette proposition, parce qu'il y a quand même des efforts importants au niveau du continent, de la Banque africaine de développement, de l'Union africaine. Tous les dirigeants africains, sûrement, ont comme consensus qu'il faut résoudre ce problème d'électrification. Maintenant, je trouve que privilégier le financement, c'est quand même peut-être ne pas bien commencer, entamer le débat. Je crois qu'il faut déjà avoir une bonne stratégie Électricité pour faire quoi? Pour une croissance, pour la transformation de nos économies, pour quel secteur? Vous savez, même au niveau de certaines villes, on peut avoir un plan d'électrification urbain qui s'insère bien dans un plan de développement urbain. Donc je crois qu'il faut d'abord cette stratégie, et les pays africains y travaillent, et voir comment maintenant résoudre ce problème de financement. Je vais juste très rapidement, vous savez, il y a des secteurs où personne, aucun gouvernement étranger ou aucune entreprise privée n'est vraiment intéressée. Par exemple, le rail. Il n'y a que les Chinois vraiment qui financent le rail, ou bien certaines compagnies minières pour écouler leurs produits. Mais dans l'énergie, tout le monde est intéressé. Les Chinois, les Américains, la Banque mondiale, l'aide publique au développement. Il faut vraiment que les Africains soient les premiers à vraiment établir leur stratégie et maintenant voir comment coordonner tous ces efforts.
Bien évidemment. Alors, pour revenir à l'accélération des investissements privés, une réunion s'est tenue récemment dans la capitale américaine. Le compte-rendu de Maria Mazzalo, élu ici par Lionel Gaïma.
Selon les experts, l'Afrique subsaharienne a d'énormes ressources inexploitées de gaz, de pétrole, de charbon, d'énergie géothermique, solaire, hydraulique et éolienne. Pourtant, la Banque mondiale dit qu'un Africain sur trois vit sans électricité. Stephen Juru est le directeur de Geothermal Development Company du Kenya et conseiller en énergie du président de ce pays. Il dit que le gouvernement seul ne peut pas changer cela.
Il y a eu des initiatives, des politiques, des lois. Il y a eu des mécanismes de régulation qui ont été mis en place, mais il y a un énorme fossé. Et on a besoin de la participation du secteur privé pour renforcer les capacités.
Lors d'une récente rencontre à Washington sur l'électrification de l'Afrique, Njiru a souligné qu'il était temps d'accélérer la participation du secteur privé.
Nous aimerions nous asseoir ensemble et voir si nous pouvons surmonter ce problème, parce que nous croyons qu'il y a un énorme marché là-bas. Nous croyons qu'il y a beaucoup à faire par le secteur privé.
Le Kenya est l'un des cinq premiers pays à lancer le partenariat Power Africa du président Barack Obama pour augmenter la capacité d'alimentation et d'accès à l'électricité.
L'accès à l'électricité est essentiel en cette ère.
Africa Power a mobilisé plus de 20 milliards de dollars du secteur privé pour les nouveaux projets d'électrification. Andrew Hertzkowitz est le coordinateur pour les initiatives d'électrification et de commerce en Afrique.
Solar Reserve, une société américaine basée à Santa Monica, en Californie, vient de remporter un marché en Afrique du Sud pour construire un projet solaire de 100 MW concentré. Nous avons un autre grand projet solaire avec Global Gigawatt, une autre société américaine qui va être mise en service la semaine prochaine au Rwanda aussi. C'est 8,5 MW qui vont fournir de l'énergie à des milliers de gens.
L'ambassadeur de la Tanzanie aux États-Unis, Liberata Mulamula, avertit qu'au moment où son ambassade travaille dur pour mobiliser le secteur privé, les gouvernements se doivent d'être prudents.
Vous savez, tous ces hommes d'affaires, tout ce qu'ils veulent, c'est de venir avec des projets, encore des projets. Et vous savez, la plupart de nos gouvernements ont une capacité limitée, mais nous avons besoin de financement, mais le financement de projets très crédibles.
L'ambassadeur Mulamula estime qu'aucun développement n'est possible en Afrique sans électricité. Mais tandis que les experts de l'industrie disent que le marché de l'énergie en Afrique est prêt pour la participation du privé, les investisseurs avertissent qu'ils se heurtent à des obstacles, y compris les coûts parfois élevés, des négociations souvent trop longues et des risques potentiellement élevés.
Merci Lionel. Power Africa investissement, oui, mais pour reprendre un autre chiffre de l'Agence internationale de l'énergie, il faudra 300 milliards de dollars pour brancher toute l'Afrique subsaharienne d'ici à 2030. D'où viendrait cet argent, Amadou?
Je crois que le mot-clé, c'est le mot partenariat. Il faudra un partenariat entre le privé, entre les pays comme les États-Unis, la France, etc., et le secteur privé africain aussi, qu'il ne faut pas oublier.
Évidemment. Alors, retour au Kenya, la vallée du Rift, importante source d'énergie géothermique, est présentée comme la réponse aux problèmes de courant dans le pays. Le hic, c'est que la plupart des sites de forage sont situés dans des parcs naturels qui fournissent d'importants revenus au tourisme. Augmenter les capacités énergétiques ou préserver la nature, tel est le dilemme de nombreux pays africains. Le reportage de Lenny Rouvaga, adapté par Morgane Guerrier.
L'installation géothermique d'Olkaria, à Naivasha, produit 280 mégawatts d'énergie, suffisamment pour répondre aux besoins de 500 000 foyers. La KenGen, principale compagnie électrique du Kenya, entend fournir 350 mégawatts supplémentaires au réseau national grâce à l'expansion du plus grand projet d'énergie géothermique du pays. Mais au grand dam des riverains, la centrale d'Olkaria est située dans le parc national de Hell's Gate. John Dirango, 30 ans, est guide touristique. Cela fait 6 ans qu'il propose des visites en bateau sur le lac du parc. Il avait l'habitude de gagner environ 800 $ par mois, mais d'après lui, le forage a eu un impact négatif sur ses activités.
Firstly,
Premièrement, la migration des animaux a été touchée par l'installation. Deuxièmement, la santé humaine est affectée en raison des émissions de sulfure d'hydrogène et des dioxydes de soufre. Troisièmement, les bruits causés par les forages sont dérangeants.
Le parc national de Hell's Gate abrite de nombreux animaux. On y compte plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux, dont certaines sont menacées. Sarah Higgins, conservatrice, dirige le centre des hiboux à Naivasha, qui sauve et réhabilite les oiseaux de proie. La plupart d'entre eux ont été blessés dans l'usine géothermique implantée dans leur habitat naturel. Pour Sarah Higgins, le développement des énergies renouvelables, telles que la géothermie, met en péril la faune kényane.
D'après ce que j'ai compris, tous les futurs sites qu'ils prévoient de mettre en place sont dans des zones de conservation, dans des parcs, des sites de préservation et aussi, malheureusement, à l'intérieur des voies migratoires. Cela entraînera d'énormes dégâts non seulement à notre faune, mais aussi notre industrie de tourisme.
La KenGen prévoit d'installer au moins 2 autres unités géothermiques à Olkaria d'ici juin 2016. Des projets qui ne représentent qu'une petite partie des 17 000 mégawatts que le Kenya souhaite obtenir d'ici 2030.
Merci bien, Morgane. Alors, Amadou, pour poursuivre sur ce thème, beaucoup d'observateurs disent que l'électricité, c'est tout. L'électricité, cela veut dire l'accès à l'eau, c'est également la réduction de la déforestation, le développement de l'agriculture, la santé, l'éducation, entre autres. La question, ne pas avoir accès à l'électricité en Afrique, est-ce une anomalie pour la planète ?
Oui, c'est une anomalie parce que l'Afrique est quand même très riche en ressources naturelles et l'Afrique ne reçoit pas, n'arrive pas à générer l'électricité dont elle a besoin. Donc dans ce cadre-là, c'est une anomalie. Mais votre reportage qui est très bien fait, d'ailleurs, pose un problème très important. Oui. C'est celui de ce débat qui n'est plus un débat national, mais un débat global du compromis qu'il faudra faire entre utiliser des énergies renouvelables quand on a des énergies non renouvelables en Afrique et les coûts qu'il faudra, il faudra payer pour cela. Mm-hmm. Mais on a des problèmes en Afrique parce qu'on est un peu prisonnier de la géographie. Vous savez, l'énergie géothermique existe beaucoup dans cette région, en Éthiopie, au Kenya. Mais plus on descend vers le sud, plus on a de charbon. En Afrique du Sud, ils utilisent beaucoup de charbon pour leurs centrales électriques. Donc en ce moment, il y a des pressions énormes qui viennent surtout des pays les plus riches pour que les Africains utilisent beaucoup plus d'énergie non renouvelable. Mais quand même, c'est l'Afrique qui contribue le moins au réchauffement de la planète.
Voilà.
Donc, voilà.
En tout cas, à quand la lumière au bout du tunnel, Amadou? Amadou, je vous remercie, Amadou Sy. Vous êtes directeur du projet de recherche Africa Growth Initiative à la Brookings Institution. Un petit clin d'œil à nos amis et confrères de RTN TV, notre télépartenaire au Cameroun. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, partout où vous êtes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.